Michel Barzoar, bonjour.
Bonjour.
Je suis une lorémette, vous confie en ouverture de votre livre une des femmes que vous avez rencontrées. Comprendre, je suis une guerrière du Mossad. Vous qui êtes un spécialiste des services secrets israéliens, pourquoi vous êtes-vous intéressée aux femmes espionnes du Mossad ?
Écoutez, je suis tombé sur l'histoire d'une façon tout à fait par hasard. Et au moment où j'ai découvert que presque la moitié des membres du Mossad sont des femmes et qu'elles se trouvent un peu partout, je me suis dit, alors, toute l'image qu'on montre du Mossad, c'est une image fausse. Parce qu'on vous raconte des histoires comme tous ces James Bond, des machos formidables qui courent partout, qui sont très intelligents, très inventifs, très courageux. Il se trouve que presque la moitié sont des femmes. Alors comment ça se fait
que parce que ce n'était pas une réalité au départ du Mossad.
Oh, pas du tout, pas du tout. Alors, au départ, les femmes faisaient du café. Après, elles tapaient les rapports de leurs supérieurs. Après, on s'est dit, les femmes sont beaucoup moins suspectes en passant les frontières. Alors si un guerrier passe avec une femme, le couple est moins suspect qu'un homme seul. On a commencé à coller des femmes en tant qu'escorts à des guerriers. Et puis on a découvert que ces femmes-là, premièrement, elles n'ont pas ce malheur que nous, les hommes, nous avons. Elles n'ont pas d'ego. Et chez nous, les égos jouent un rôle incroyable et terrible.
Alors, et d'ailleurs, vous dites que le Mossad recrute plus d'ailleurs des femmes au physique passe-partout, finalement.
Oui, parce qu'ils ont découvert que finalement, ce n'est pas les Matahari qui pouvaient séduire n'importe qui et lui soutirer les secrets. Et aussi, il y avait une autre chose. La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne sont pas nées en Israël. Elles viennent de partout dans le monde.
Effectivement, beaucoup de nationalités dans les femmes que vous avez
rencontrées. Et pour le Mossad, c'est très important qu'une guerrière qui passe les frontières, qui est dans un pays étranger ou un pays ennemi, qu'elle puisse employer, utiliser sa propre identité d'un pays où elle est venue. Alors comme ça, nous avons des femmes qui sont venues de la Pologne, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de l'Uruguay, d'Afrique du Sud, du Canada, des États-Unis, de partout. Et aussi, une chose de commun, toutes ces femmes ont une image très belle d'Israël. Toutes ces femmes, en venant en Israël, en se présentant au Mossad, ou se faisant recruter, elles ont un sentiment que la sécurité d'Israël, l'avenir d'Israël, dépend dans une grande mesure de ce qu'elles vont faire pour protéger ce pays.
Et certaines ont donné de nombreuses années de leur vie, parce qu'elles ont fait de la prison, parce que parfois elles ont été arrêtées. Parmi tous les portraits, hein, moi ce que j'ai noté, il y avait donc Yolande Armor d'Égypte qui a espionné du temps du roi Farouk. L'incroyable Shula Cohen.
Hein. Incroyable, voilà. C'est le mot.
Elle, femme mariée, cinq enfants, et qui va devenir ce qu'on appelle l'espionne numéro un du Mossad au Liban.
Oui.
Qui va faire de la prison, 7 ans.
Et parce qu'elle était condamnée à mort par pendaison.
Elle réussira à être libérée et finir sa vie
en Israël.
Qui est
elle est venue en Israël, elle a été libérée à l'âge de 50 ans. Toute sa famille, les 7 enfants et le mari, sont déjà en Israël, à Jérusalem. Et elle vit encore en Israël, encore 50 ans. Oui, elle est morte l'année dernière à 100 ans.
Sylvia Raphaël dont la couverture comme photographe lui permettra de rencontrer le roi Hussein et sa famille. On imagine effectivement, vous en parlez, de la stupéfaction du monarque de Jordanie quand la vraie identité de cette photographe sera publiquement révélée. Au total, il y a donc dans votre livre plus d'une vingtaine de portraits. Quelle est finalement, parce que vous en avez rencontré beaucoup, celle qui vous a le plus marqué ?
J'étais le plus intéressé par Yael. Yael, ce fut la fille qui, sous une couverture de scénariste américaine, est allée au musée Victoria and Albert Museum à Londres en prétendant qu'elle va faire un scénario sur la vie d'une femme anglaise aventurière. Ils ont cherché, elle a trouvé une femme qui, tout à fait par hasard, est allée au Liban. Et elle va faire un film là-dessus. Elle a reçu un contrat véritable d'un producteur anglais. Elle arrive au Liban comme vraiment une scénariste. Et alors, elle reçoit une mission de louer un appartement face à la maison où habitent les trois plus grands leaders du terrorisme. Elle doit les suivre et savoir exactement Quand est-ce qu'ils sortent? Quand est-ce qu'ils rentrent? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont des gardes du corps? Est-ce qu'il y a une voiture qui reste en bas? Elle doit reporter cela jusqu'au détail le plus petit. Et finalement, elle ne sait pas, mais un soir, il y a son chef qui arrive au Liban avec une fausse identité. Il l'invite à dîner. En parlant de tas de choses, il lui dit « Comment sont tes trois copains ?» Ah, elles disent « Elles sont tous à la maison ce soir. » Elle ne sait pas qu'en disant ceci, elle déclenche une des plus grandes opérations du Mossad. Parce qu'au même temps, il y a des bateaux de la navire israélien qui se trouvent tout près de la côte libanaise. 13 membres d'un commando spécial débarquent sur une plage déserte. Ils arrivent dans la maison où les trois chefs terroristes habitent. Ils pénètrent dans leurs appartements après quelques coups de feu. Ils arrivent à les tuer et ils partent. Maintenant, tous les agents israéliens qui sont à Beyrouth reçoivent l'ordre de foutre le camp tout de suite. Parce que demain, ils vont commencer à chercher qui l'a fait. Elle, non. Parce qu'elle était tellement bien couverte par cette histoire de scénariste. Elle reste encore une dizaine de jours. Elle part. Et ce qui est le plus intéressant, elle a reçu beaucoup d'accolades et des prix pour cette opération. Mais elle est restée encore 14 ans. Elle a vécu dans toutes les capitales arabes. Elle a fait des tas de choses. Elle a commandé des kits. Et comme le chef de Mossad m'a dit, si on lui donnait une médaille pour chaque opération qu'elle a réussie, il n'aurait plus de place sur sa poitrine.
Voilà. Et dans toutes ces femmes que vous avez rencontrées, il y a aussi une Française. Alors, elle se fait appeler dans votre livre Danielle. Elle est à la retraite près de Tel Aviv et elle reçoit d'anciennes espionnes à son domicile.
Oui.
Vous y avez assisté, vous aussi, à une de ces rencontres?
Non, ça, je ne peux pas. Mais... Par contre, elle chante du Brel aujourd'hui un peu partout en Israël. Elle m'a demandé de venir l'écouter, bien sûr sous un autre nom, et personne ne sait de qui il s'agit. Il y a des femmes qui ont fait des choses fantastiques, et personne, jusqu'à leur mort, n'a pas su qu'est-ce qu'elles ont fait. C'est cette Yael dont je vous ai parlé, elle est morte il y a 2 mois, jusqu'au dernier moment. On ne pouvait pas prononcer son nom de famille, son adresse et sa photo. Au début, j'ai eu le droit de publier sa photo quand elle était jeune. Mais maintenant, elle, à 84 ans, nous avons pris une photo ensemble, tous les deux. J'ai voulu la publier dans le livre. Ils ont dit non, c'est interdit. On ne doit pas pouvoir faire la connexion entre elle et ce qu'elle a fait.
Alors, Yael, il n'aurait donc pas eu assez de place sur sa poitrine pour, si on avait dû lui donner une médaille pour chaque mission. Mais vous en parlez dans votre livre, il y a aussi des échecs
bien sûr.
Au féminin.
Oui, il y a premièrement l'échec qui était le plus grand fiasco du Mossad à Lillehammer, en Norvège. Le Mossad suivait un peu partout. Le plus grand ennemi qu'ils avaient, c'était quelqu'un qu'on appelait le prince rouge, Ali Hassan Salamé, qui était le chef d'opération de Septembre Noir. C'est lui qui était responsable du massacre des athlètes israéliens
à Munich,
aux Jeux Olympiques. Et soudain, ils ont reçu des informations qui se trouvent en Norvège. Il est à Lillehammer, ils arrivent, tout le groupe arrive, avec 2 femmes dedans, parmi elles, Sylvia Raphaël,
dont on parlait tout à l'heure.
Et ils ont identifié le type. Et Sylvia qui dit non, c'est pas lui.
Il parle français, ce qui n'était pas normal. Enfin, il y avait plein de choses qui lui...
Exactement. Une autre femme qui dit, moi j'ai vu, ses sourcils ne sont pas les mêmes, c'est pas lui. Mais l'équipe du Mossad était formée de vétérans qui avaient déjà fait plusieurs opérations. Ils disaient, oh, ça va, nous savons que c'est lui. Et ils ont tué un pauvre innocent garçon de café, marocain, Mohamed Bouchiki. Après des années, Israël a dû payer des indemnités à sa famille. Alors, premièrement, ils ont tué l'homme qu'il faisait pas les pas. Et deuxième fiasco, la moitié de l'équipe a été arrêtée par la police norvégienne. Et parmi eux, Sylvia Raphaël, qui a fait un grand discours patriotique à la cour pendant le procès qu'elle a eu. On l'a condamnée à 5 ans de prison. Elle tombe amoureuse de son avocat norvégien.
Qui était marié.
Et comment on découvre ceci? Elle était invitée chez l'ambassadeur pour la Pâque juive, avec, et aussi l'avocat aussi, invité, avec sa femme. Et la petite fille de l'ambassadeur, qui joue sur la table, elle voit soudain que Sylvia et l'avocat se tiennent sur la table, main dans la main. Alors ils ont compris, et en effet, elle a été libérée très tôt. Elle a épousé l'avocat a divorcé de sa femme. Et ils ont vécu dans une kibboutz. C'est une histoire, écoutez, c'est une cambolesque.
Voilà.
Si j'aurais qu'il ait créé un roman comme ça, vous m'auriez jeté du haut de l'escalier.
Merci Michel Berzoar.
Merci.